soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.
Salut les amis, encore une fois, je regrette vraiment que vous ne soyez pas là pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'on a une vue exceptionnelle, 20h33 pour fêter dignement les 20 ans du Master 246 de Paris-Dauphine. On a le plaisir tout à l'heure de voir le président de l'université. On va enchaîner avec la table ronde que nous avons interrompue dans l'interview pour laisser place au discours. Nous étions avec Stéphanie Ben-Simon. Ça va toujours Stéphanie ?
Super, merci.
Voilà, ravi que vous soyez là. Je rappelle que vous êtes à la tête du pôle immobilier chez Ardian. Merci d'être avec nous. J'allais dire la légende de l'immobilier, mais non, le grand professionnel de l'immobilier qui en a vu beaucoup et qui nous éclaire aussi de ses lumières. Ils sont là sur le plateau. Serge Gribowski, toujours avec nous. Ça va, Serge ?
Ça va très bien. Oh, bah, surtout après un tel éloge.
Alors, moi, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que voilà, j'aime beaucoup cette personne. J'ai eu le plaisir de la rencontrer. D'ailleurs, elle nous a vu démarrer dans notre groupe il y a quelques années. C'est aussi une grande professionnelle de l'immobilier. Total respect pour Joëlle Chauvin.
Écoute, que des bonheurs.
Voilà.
Mais mon affection est réciproque.
Merci d'être avec nous. Vous êtes magnifique et merci d'être avec nous pour fêter. Finalement, on est dans une ambiance, on va trancher un peu parfois avec l'animosité de l'actualité, parfois, parce qu'on est dans une ambiance festive. Un professionnel avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à faire une table ronde dans nos studios, il est avec nous pour CBRE, c'est Grégoire de La Ferté.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va Grégoire ?
Bah, fort bien, on est en fin de soirée avec ce beau soleil, cette belle vue, on est tous bien là ensemble.
Alors on parlait avec Serge et Stéphanie, nous avions une conversation, on va reprendre la conversation. C'est l'apanage de la radio justement dans un milieu plus conversationnel, c'est ce que nous permet l'exercice. Joël, tout à l'heure on disait 20 ans c'est un peu l'âge finalement où on entre dans une espèce de maturité. Ces 20 premières années ont été les 20 premières années de la financiarisation de l'immobilier. On a l'impression d'entrer dans une autre génération qui est celle peut-être du verdissement, de l'invitation de la nature en ville, d'une ville apaisée, de la ville du quart d'heure dont on parle beaucoup, des mobilités douces. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la prospérité n'est pas infinie, que le Covid nous a donné une leçon d'humilité extraordinaire. Et je vais vous poser la même question que j'ai posée à Serge tout à l'heure. Vous avez vu beaucoup de crises dans l'immobilier, beaucoup de mouvements cycliques. Qu'est-ce que vous inspire aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons ? Est-ce que finalement toutes les contraintes qu'on a vécues, inflation normative, législation parfois pesante, incertitude parfois qui ont rebattu les cartes, est-ce que finalement toutes ces contraintes ne deviendraient-elles pas des opportunités ?
Alors, j'ai tout à fait spontanément envie de vous dire bien sûr, bien sûr, sinon j'aurais une réponse de désespérance. Or, ce n'est pas possible. Bon. L'immobilier, on le sait tous et tous ceux qui nous entourent ce soir le montrent, c'est un métier magnifique, exigeant, parfois ingrat, mais que nous forgeons et chacun le forge. Le master financier de Dauphine y a participé grandement. Mais l'immobilier demande de la modestie parce que l'immobilier est une sensibilité humaine. C'est en pensant aux autres, en pensant à leurs besoins, en pensant à la ville, en pensant à la ruralité aussi. Parce qu'il faut sortir aussi des villes souvent et de plus en plus. Et je pense que ce que nous vivons actuellement va peut-être nous l'apprendre. C'est en regardant les besoins de ceux qui nous entourent, des besoins nouveaux qui arrivent aussi, des troubles qui peuvent parfois nous accabler. La vision écologique n'est pas simple, il n'y a pas de réponse absolue. Mais l'immobilier demande un savoir toujours constant, qui est de savoir construire, de savoir respecter des normes, de savoir faire rêver un peu les gens qui vont venir chez nous et d'inventer des choses pour eux. Donc ça demande des qualités diverses. Ici, toutes les qualités sont réunies.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a parlé tout à l'heure de la formation des esprits et j'ai posé la question au président de Dauphine en lui disant finalement vous pratiquez par exemple beaucoup l'alternance. L'avantage de l'alternance c'est que c'est une troisième voie pour l'éducation qui permet une équité sociale. Vous avez vu, j'ai pas dit égalité sociale, j'ai dit équité sociale pour financement des études supérieures qui forment les esprits d'où qu'ils viennent, de quelques conditions sociales d'où ils viennent. Et c'est très intéressant de voir à quel point ça a de l'importance. Grégoire, on en a beaucoup parlé puisqu'on a travaillé ensemble sur des tables rondes dans nos studios parisiens. La leçon du Covid, est-ce qu'elle nous a enseigné finalement de l'humilité? J'ai posé la question à Stéphanie et à Serge tout à l'heure. Est-ce que les bonnes vieilles habitudes ont repris ou est-ce que quelque part, dans votre fonction, et Dieu sait que le tertiaire a été sérieusement ébranlé pendant ces deux dernières années, quelles leçons vous tirez finalement quand vous voyez ces jeunes esprits voilà, résolument optimistes et très innovants? Est-ce que ça vous rassure, le professionnel que vous êtes?
Est-ce que ça me rassure? Oui, quelque part, parce que ça veut dire aussi que dans cette période qu'on traverse, mais qu'on continue de traverser, hein, l'histoire n'est pas terminée. Dans cette histoire qui n'est pas terminée, en fait, l'humilité, vous avez employé le mot d'humilité, c'est exactement le cas, parce que on a fait beaucoup de commentaires dès l'origine en disant voilà comment on va travailler demain. On s'aperçoit qu'en réalité, on n'est pas arrivé au bout de l'histoire. Ce qu'on avait dit il y a quelques deux ans maintenant ne s'est pas totalement avéré. Et que, comme toujours, on met l'église au milieu du village ou la balance à peu près au milieu, en réalité. Ce qui est important de regarder, c'est que en réalité, on est revenu sur le besoin de l'utilisateur. Joël l'a dit à l'instant, on est revenu sur le besoin réel du salarié, le besoin de l'entreprise. Et on repart de ces bases-là pour reconsidérer comment on peut faire fonctionner des écosystèmes qui travaillent, qui fonctionnent autour de bureaux, mais pas que du bureau. C'est-à-dire que là aussi, Joël l'a très bien dit à l'instant, le fait de fonctionner dans un écosystème qui est un écosystème urbain, il y a une vie à l'intérieur, il y a une vie à l'extérieur, ça fait partie de la vie au bureau et on a besoin de ça. Et je pense que le principal enseignement, c'est ça aussi. Et puis, l'autre enseignement qui vient se rapprocher un petit peu à notre soirée ce soir aussi, c'est que ce besoin de formation, il continue de se manifester, il continue d'exister. Ce besoin de recrutement, ce besoin de rétention des talents, de captation des talents, il s'est encore plus accéléré au cours des derniers mois et j'ai envie de dire au cours des dernières semaines. Quelque part, si on regarde un petit peu LinkedIn tous les jours, si on a envie de le faire, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un super site d'annonce pour annonce d'emploi et qu'il y a énormément de besoins qui sont là. Donc c'est vrai que de continuer pour les entreprises à former des collaborateurs tels qu'on le fait aujourd'hui et quelques collaborateurs de l'entreprise qui sont présents là, c'est très important parce que ça vient conforter ce qui a été exprimé pendant cette période de confinement, de Covid, qui pour moi n'est pas complètement abouti en termes d'usage et de besoin, de se dire bah, en fait il y a la vie d'aujourd'hui mais il y a aussi la vie d'après. Et on a envie de continuer, on a envie d'apprendre, on a envie de progresser. On a envie de bouger et quoi qu'on en dise, il faut s'adapter effectivement à ce mouvement qui est un mouvement de fond.
Justement, je vais rebondir sur ce que vous dites. D'ailleurs, j'en profite pour montrer le livre 4e édition du Management de l'immobilier. C'est la Bible, hein. C'est vraiment, c'est la Bible ou le Talmud de l'immobilier. Oui. C'est vraiment le sujet du jour. On a l'impression, on a fait chez nous à Radio Immo, une émission qui s'appelle « Permis de démolir », qui est une émission un peu polémique dans l'idée, finalement, d'une nouvelle anthropologie urbaine. Quand on dit anthropologie urbaine, on est en train de redécouvrir le fait que l'habitat, le lieu, l'espace et tout ce qui l'entoure, c'est ce que a rappelé Joël Chauvin très justement, dans un écosystème qui se veut complexe, Stéphanie Ben-Simon, quand on travaille justement le développement de vos immeubles, quand vous gérez par délégation les actifs de vos clients, est-ce que cette pensée, cette complexité aujourd'hui, vous pensez réellement qu'on a intégré, j'allais dire entre guillemets, les nouveaux paradigmes de la société, c'est-à-dire qu'en fait, les nouvelles attentes. On voit bien que l'espace, le mètre carré, entre guillemets, n'est plus associé uniquement à l'espace en lui-même, il est associé à d'autres choses, beaucoup plus complexes. Est-ce que c'est intégré aujourd'hui?
Est-ce que c'est intégré? Je ne sais pas si c'est encore complètement intégré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience... C'est ce que disait Joël, de l'humain au centre de notre métier et de la construction des villes. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, on a en tant qu'acteur de l'immobilier, historiquement, pensé à produire là où...
Vous voulez dire que l'humain est aujourd'hui est redevenu central? Il n'était pas avant?
Oui, pas assez, certainement. En tout cas, pourquoi on fait des immeubles? On fait des immeubles pour les gens, pour qu'ils puissent y vivre et ils s'épanouissent, pour qu'ils puissent y travailler. Et tout ce qui se passe sur la notion du travail, du télétravail, sur le fait qu'il faut faire des lieux dans lesquels les gens ont envie d'être, Je crois que ça remet l'humain au centre de ce qu'on essaye de faire quand on construit des villes et quand on construit des immeubles et on les place dans leur environnement. Et donc aujourd'hui, même quand on pense les marchés immobiliers, on ne pense plus à un marché de bureau. On pense vraiment comment est-ce qu'on insère, et c'est pour ça aussi, en tant qu'investisseur, qu'on regarde beaucoup la mixité, le fait de pouvoir faire des conversions dans des usages assez différents, de faire plus de mixité dans les immeubles, ou en tout cas, de pouvoir aussi bien intervenir sur du bureau, quand c'est utile, que sur d'autres choses, d'autres services. Et donc cet aspect serviciel au service en fait, de l'utilisateur au sens large, il revient davantage, et il revient davantage parce que les besoins des utilisateurs se manifestent. Alors, de manière plus agressive en ce moment, parce que soit les gens refusent de revenir au bureau, soit...
Ah oui.
Et donc, c'est pour ça que moi, je le vois de manière assez positive, parce que c'est vrai, dans le progrès, il ne faut pas oublier l'humain et le progrès que l'humain peut faire. Et la technologie nous aide, mais elle ne doit pas effacer l'humain. Et je pense que quand on repense un peu les différentes manières de consommer, de vivre, etc., il faut aussi repenser la place de l'humain dans tout ça. Et c'est très intéressant parce que quand on fait de l'immobilier, on doit accompagner tout ce mouvement.
Bien sûr.
Et donc ça nous force, et ça force les jeunes en particulier à repenser tout ça. Et eux, ils n'ont pas à penser, ils ont à le vivre et à nous demander ce qu'ils veulent, quoi, parce que c'est vraiment eux qui... Et donc c'est intéressant, vous parliez d'alternance, je trouve que c'est très intéressant, ça les met en situation et ça nous met en situation avec eux.
Absolument.
Parce que on a vraiment besoin de sans cesse de cette intergénération dont on a besoin tous dans ce métier pour pouvoir comprendre les besoins constamment parce qu'ils évoluent.
Serge, justement, vous qui avez ce recul professionnel, on voit bien que cette anthropologie urbaine, cette nouvelle urbanité, elle redéfinit un peu la façon de vivre ensemble. Et c'est intéressant de voir finalement les sociétés européennes en Europe, avoir parfois des replis identitaires, des replis communautaires, qui font que la ville finalement se dessine aussi dans la façon dont les gens vivent ou perçoivent cette nouvelle façon de vivre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la génération qui arrive aux affaires, elle va modifier la ville? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle de frugalité foncière avec zéro artificialisation nette. On parle de densité plus haut. Plus petit peut-être, est-ce qu'on restreint un espace? On voit que les communs, par exemple, prennent une dimension extrêmement importante dans les dessins de la ville. Je fais allusion à certains projets qui se sont développés, mais je peux aussi parler, par exemple, de nouveaux projets, notamment aux États-Unis. Vous connaissez la Steinway Tower, qu'on appelle la Tour Crayon, qui est une tour incroyable de 430 mètres de hauteur, avec un empattement des 18 mètres de large en terre cuite et en bronze. Toutes ces pensées nouvelles, est-ce qu'elles vont accompagner ce développement de la ville? Et est-ce que vous voyez, vous, finalement, quelque chose d'assez résilient? Je sais que oui, mais quels sont les défis, selon vous, qui seront à affronter là-dessus?
Les défis aujourd'hui sont nombreux. Il y a, vous l'avez cité, la zéro artificialisation nette. C'est un défi pour les promoteurs qui est colossal. Et en même temps, ça amène à une réflexion sur les cycles de vie de l'immobilier et sur, au fond, tel territoire qui était déjà urbanisé, qui était utilisé pour de l'industrie, pour de l'entreposage à tel endroit, est-ce qu'au fond, c'est l'optimisation humaine, est-ce que c'est l'optimisation économique de cet espace? Et il y a des entreprises, des grandes entreprises industrielles qui ont encore des emplacements quasi urbain ou périurbain, qui tout à coup découvrent que peut-être que l'usage extensif qu'ils ont fait de leurs espaces n'est plus tout à fait opportun et pertinent. Et par ailleurs, des promoteurs qui cherchent comment pouvoir construire à nouveau, il y a deux réponses. Il y a la densification et la deuxième réponse, c'est effectivement la transformation ou la destruction de bâtis existants, mais sur des zones déjà artificialisées. Il n'y a pas tellement d'autres voies, à dire vrai, et ce sont des voies qui poussent et qui obligent à l'innovation, et qui poussent à l'innovation et qui poussent au mouvement.
Alors justement, on parle de mouvement. Joël, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On parle de réversibilité, de réutilisation du bâtiment, de déconstruction. Finalement, est-ce que... Et on a parlé aussi beaucoup d'exode urbain qui n'a pas eu lieu. Hein, je peux juste rappeler que les statistiques démontrent qu'il n'y a pas eu des mouvements massifs de population vers les villes intermédiaires. Mais quand même, leur démographie s'est améliorée considérablement. Est-ce que le fait qu'on rebâtisse la ville sur la ville et qu'on réutilise des bâtiments pour loger les Français dans notre pays, il y a une vraie crise du logement. Pour rappeler que jamais la crise de l'immobilier neuf n'a été aussi forte depuis plus de 40 ans, est-ce que ces défis-là, on arrivera aujourd'hui à les remporter ?
Écoutez, je crois que tous les quatre, on peut se dire qu'on a toujours entendu qu'il y avait une crise du logement et qu'on n'était pas foutu de délivrer chaque année le nombre de logements même sur lesquels on comptait à minima. Alors, ne désespérons pas, on va y arriver. Serge vient de dire une chose évidente. Intéressons-nous à des fonciers où ce qui est dessus est obsolescent, j'allais dire, ne sert presque plus à rien, n'est plus dans le vent, n'est plus dans l'utilité. Faisons en autre chose.
Vous faites allusion au mètre carré de bureau qui serait obsolescent aujourd'hui.
Oui, et puis
d'accord, par exemple.
Et aussi des locaux industriels qui souvent étaient des grands grignoteurs d'espace.
C'est vrai.
Je devrais dire des mangeurs, pas des grignoteurs. Mais qui ont grignoté des fonciers très disparates, auxquels on peut donner une harmonie peut-être. Alors il faut des bons architectes, il faut que les investisseurs soient éclairés, oublient peut-être la grande lumière pour aller peut-être chercher des opportunités plus difficiles, plus complexes, qu'il faut savoir présenter. Pas facile de présenter quelque chose qu'il faut remettre dans une résurrection. C'est pas simple. Donc il va falloir beaucoup de volonté. Ça va être intéressant.
On a beaucoup, j'allais dire, entre guillemets, tapé sur le bureau ces deux dernières années en disant que finalement, c'est plus si important que ça. Et que même on est allé jusqu'à, certains sociologues sont allés jusqu'à imaginer que finalement le lieu de travail deviendrait, et c'est vrai, un lieu de vie, mais qui ressemble finalement à la maison. Et on se dit, ça brouille un peu les cartes et ça décloisonne les univers. Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui encore pour le bureau
Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai pas envie de... Enfin, j'imagine que tous les gens qui sont ici n'ont absolument pas envie d'aller au bureau pour retrouver leur maison. Le bureau, c'est un autre lieu. C'est une autre intelligence, c'est un autre échange, c'est une autre sensibilité. D'ailleurs, écoutez, amusons-nous. On ne parle plus de cash flow, parlons d'utilisateurs heureux.
J'aime beaucoup Grégoire. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement ? C'est vrai que le bureau a eu une période un peu bashing, assez prononcée, mais le bureau est mort, vive le bureau finalement, hein, quelque part.
Oui.
Mais oui, Grégoire, vous en pensez quoi ?
Je vais avoir du mal à commenter derrière Joël, évidemment, plus sérieusement, évidemment, on a vécu des excès. Donc c'est normal que les excès s'expriment aussi en sens inverse, en expliquant que tout ce qu'on faisait avant n'est plus bon et qu'il faut balayer tout ça, les tours, ça ne sert plus à rien, que c'est obsolète. Bon. L'histoire, effectivement, démontre que la réalité reprend le dessus. Et quelque part, plus les jours avancent là en ce moment, plus la réalité reprend le dessus, où effectivement le besoin de ce bureau, le besoin d'être ensemble, le besoin de communauté, il est exprimé par les collaborateurs donc qui ont besoin de bureaux, et il est exprimé également par les employeurs qui ont besoin de faire revenir les collaborateurs au bureau, voire même de les fidéliser de plus en plus en développant de nouvelles façons de travailler. Ce qui est intéressant dans la période qui s'est passée, c'est qu'effectivement, ça a rebattu les cartes. Quelque part, ça nous a fait gagner, ou ça nous a fait prendre, peu importe. Je pense au moins 5 ans. Là où des entreprises n'avaient pas anticipé ou n'envisageaient pas de passer sur des modes de fonctionnement qui étaient plus ouverts, plus flex, peut-être plus ouverts sur le fait de pouvoir travailler à la maison, en fait, on a accéléré ça. Et qu'est-ce qu'on a accéléré ? On a accéléré ce temps de mutation qui fait que les entreprises aujourd'hui, mais comme les collaborateurs, quelque part se sont posés les bonnes questions en disant comment est-ce que j'ai envie de travailler, comment est-ce que j'ai envie de m'organiser, est-ce que mon organisation d'hier, c'est mon organisation de demain? Et la réponse à tout ça, c'est bah, évidemment, je suis obligé de la faire évoluer parce que je suis obligé de tenir compte de ce qui se passe, des générations plus, plus jeunes qui poussent aussi et qui disent ben, « moi je suis désolé, faire carrière dans la même entreprise, c'est pas exactement mon modèle, peut-être que ça m'arrivera, je préfère une organisation qui est effectivement plus horizontale que pyramidale, j'ai le droit à la parole, je ne suis attaché à pas grand-chose et en même temps, j'attends que l'entreprise me fournisse beaucoup de choses. » Donc ça a rebattu énormément les cartes avec la nécessité pour, quelque part, les locomotives de chacun des secteurs d'activité, de chacune des industries, de se repositionner en disant « si je suis le leader, je dois aussi être le leader de cette évolution, de ces tendances, et je dois me repositionner, je dois faire évoluer ces modes de travail à l'intérieur de mon entreprise, parce que je suis le modèle de mon secteur d'activité, donc je dois entraîner aussi. » Et effectivement, ce qu'on voit très clairement aujourd'hui, c'est ce côté un peu boule de neige qui est en train de se passer sur certains secteurs d'activité où une entreprise bouge, mais en fait elle remet en question la suivante et la troisième et la quatrième, qui oblige en fait à tout le secteur d'activité à bouger sous peine d'obsolescence et de mise au banc des autres qui ne feraient pas le pas, et avec quelques questions de rétention ou de recrutement qui sont à la clé. Donc effectivement, cette période, elle nous a fait bouger, mais en attendant, les mètres carrés de bureau, ils sont toujours bien utilisés, mais ils sont utilisés effectivement différemment. Et là aussi, il y a besoin de les repenser différemment pour leur donner plus de flexibilité, parce que ce qu'on est en train de vivre là, en période accélérée, indéniablement, ça se reproduira. Donc il faut qu'on ait un outil à la base qui permettent d'envisager ces évolutions de plus en plus rapides.
Ce que vous dites en termes d'accélération est une réalité, c'est-à-dire que on mesure la révolution industrielle s'est étalée sur à peu près 80 ans, et en 15 ans, on n'a vécu une révolution sans précédent. Ça rend un peu schizophrène les communautés humaines, hein. Ça explique aussi beaucoup de choses par rapport au temps, et parfois, dans la religion du zapping, d'avoir parfois un peu une éloge de la lenteur. C'est intéressant de se poser et de réfléchir un temps critique et un temps difficile parfois. On arrive à la fin de cet exercice. Je voulais juste rappeler que Joëlle Chauvin, vous avez été la fondatrice du Cercle des femmes de l'immobilier. Est-ce que vous me permettez de dire que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la parité dans l'immobilier, et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire?
Alors, écoutez...
Je parle en présence de Stéphanie, incarne justement cette génération grâce à vous, Joëlle, parce que vous avez tracé un sillon dans lequel vous, Stéphanie, vous vous êtes engouffrée, puisque vous êtes à la tête aussi du Cercle des femmes de l'immobilier.
Stéphanie sourit déjà parce qu'elle sait ce que je vais vous dire.
Mais oui.
Ce qui m'importe, c'est l'intelligence, c'est la finesse, c'est pas la parité. Si un homme est plus brillant que moi, c'est lui. Si je suis plus brillante que lui, c'est moi. Je n'aime pas cette l'égalité est merveilleuse. La parité est ennuyeuse. J'espère que c'est un Alexandre.
J'aime beaucoup. Et ben moi je vais vous dire, Joëlle,
si je peux. J'ai pas cherché à le faire.
Moi je vais vous dire, Joëlle, dans une autre. J'ai aussi un certain âge, dans une autre vie, j'ai rédigé des textes de loi. Et j'ai acquis la conviction que la parité est presque une nécessité pour amener les gens à avoir des contraintes qui les obligent à. Parce que si on laisse finalement l'intelligence telle qu'elle est parmi dans le pouvoir, je pense qu'on n'est pas loin, on est loin d'obtenir ce que vous dites.
La parité est un... Je n'exclus pas la parité.
Ouais.
Je dis qu'elle est un instrument de temps en temps.
Vous ne voulez pas qu'on oblige les entreprises à dire il faut que vous ayez une parité, comme c'est en politique,
c'est
par exemple. D'accord. Hein? D'accord.
Mais,
non, mais c'est intéressant de point de
vue. Il est bon de temps en temps de savoir s'en servir. Voilà. Mais l'égalité m'importe plus.
Voilà. Je voulais faire cet éclairage parce que j'étais ravi de vous avoir sur le plateau. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais l'idée, c'était voilà, de fêter ces 20 ans, de fêter la fête de l'esprit, puisque la connaissance, c'est deux mots, c'est conscience et naissance, et c'est pas autre chose qu'une naissance de la conscience, et c'est le savoir et l'intelligence qui domineront. Il ne faut pas s'en prémunir, mais en même temps, dire que cette génération, vous voyez, Stéphanie, bah, demain, seront à vos postes, seront les dignes successeurs. Merci Stéphanie Ben-Simon, à la tête du pôle immobilier d'Ardian. Merci Serge Grudowski, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci pour ces véreux à Grégoire de la Ferté d'être passé par le plateau. Et un grand merci, un triomphe pour Joëlle Chauvin. Merci, on enchaîne.
soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.